Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à l'ONU. L'Organisation des Nations Unies se bat plus que jamais pour réaffirmer sa raison d'être comme avant-garde de la paix et de la sécurité dans le monde, au milieu de la menace émanant de l'administration américaine de couper son financement et de l'incapacité continue du Conseil de sécurité à prendre la moindre action collective. Dans quelle mesure la décision des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris sur le climat entame-t-elle la crédibilité de l'ONU et marque-t-elle son affaiblissement? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alexandra Novoselov, chercheur invité au Centre pour la coopération internationale de l'Université de New York, également chercheur associé au Centre Thucydide de l'Université de Paris 2 Panthéon Assas. Alexandra Novoselov qui a dirigé l'ouvrage Le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute-puissance de la collection Biblis des éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Marc de la Sablière, ancien conseiller diplomatique du président Jacques Chirac, ancien ambassadeur et représentant de la France au Conseil de sécurité entre 2002 et 2007, enseignant à Sciences Po en charge du séminaire sur le Conseil de sécurité. Son dernier ouvrage, Indispensable ONU, paru dans la collection Tribune du Monde des éditions Plomb. Bonjour.
Bonjour.
La décision prise par les États-Unis de se retirer de l'accord de Paris sur le climat donne bien le là de la politique américaine pour les 4 ans à venir, une décision qui pourrait en amener d'autres, tant le président américain semble collé à ses promesses de campagne et à ses déclarations de début de mandat. La priorité donnée aux États-Unis sur toute autre considération collective marque le retour de l'affirmation de Washington, de sa puissance, de l'adhésion à un système fondé sur une réelle politique qui ne fait pas confiance à la régulation par les organisations internationales. Un coup dur pour les Nations Unies et son secrétaire général, Antonio Guterres, nouvellement installé. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, Jean-Marc de la Sablière?
Oui, c'est d'abord une mauvaise nouvelle, hein. Même une très mauvaise nouvelle pour l'humanité et pour l'ONU. Ça avait été un grand succès, n'est-ce pas, de
cette COP 21.
La COP 21 avait été, le résultat de la COP 21 avait été un grand succès de l'ONU. Alors, cela étant dit, ce n'est pas fini. En vertu, si vous voulez, de l'accord de Paris, une telle décision ne peut entrer en vigueur que dans 4 ans, en 2020. Et la réaction du monde est très intéressante, parce que, à l'unisson, le monde a réagi en isolant le président des États-Unis. Quand je dis le président des États-Unis, c'est pas toutes les États-Unis. Et aujourd'hui, je pense que la bataille commence pour sauver ce que le monde veut sauver, c'est-à-dire l'accord de Paris. Et cette bataille, elle va se mener d'abord aux États-Unis, et il y a toutes les réactions des États, des grandes villes comme New York, de la société civile.
Certaines grandes
entreprises
aussi.
Elle va se jouer aussi sur le plan à l'échelle mondiale, multilatérale, au sein du G20, où sont présentes la Chine et l'Inde. Je rappelle que la Chine défend l'accord de Paris, et que l'Inde a dit, par la voix de son Premier ministre, qu'ils étaient prêts à prendre des engagements allant au-delà.
Des pays qui voient comme un boulevard, finalement, s'ouvrir.
Et cette bataille va se jouer à l'ONU aussi. Elle va se jouer à l'ONU à l'Assemblée générale, elle va se jouer à l'ONU dans les COP à venir et dans la préparation des COP. Et je crois que plus que jamais, on aura besoin de l'ONU. Donc c'est à la fois une mauvaise nouvelle, comme je le disais, mais en même temps, la bataille n'est pas finie et on a besoin de l'ONU pour la mener.
Alexandra Novoselov.
Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire l'ambassadeur, bien entendu. Et vous parliez de puissance américaine, mais en réalité, de plus en plus, on voit que c'est un acteur qui s'affaiblit parce qu'il s'isole. Et donc, on sent que les États-Unis sont en train de se retirer du monde. Et le monde, il continue à évoluer et il va évoluer sans eux. Alors, bien entendu, comme ce que disait l'ambassadeur, l'accord, il n'est pas effectif tout de suite. Et dans 4 ans, où serons-nous? Et sans doute que le prochain président reviendra sur cette décision. Mais en attendant, on est vraiment dans un isolement qui est une volonté de s'isoler des autres, de se démarquer, d'être un peu un fauteur de tout, un rogue state, comme on dit en anglais, donc qui n'est pas bon pour la stabilité du monde et qui complique énormément la tâche des Nations Unies, parce que les Nations Unies se doivent d'être un régulateur, mais si vous avez comme ça un trublion dans l'Assemblée, ça complique quand même un peu la tâche.
Alors, rogue state, juste une traduction pour nos auditeurs, un état voyou. Voilà. C'est comme cela que l'on peut traduire. Alors, on met souvent en avant la relation de l'ONU avec les États-Unis comme étant le principal défi du nouveau secrétaire général, Monsieur Guterres, la réduction de la contribution des États-Unis au budget de l'ONU, évoquée mais non encore annoncée, serait là aussi un signal très fort. Est-ce que l'ONU peut survivre à la baisse de la contribution américaine et quelles pourraient en être les conséquences? On en revient à la Chine, un boulevard pour la Chine, Jean-Marc de la Sablière.
Alors l'ONU, j'ai toujours pensé que l'ONU avait besoin du partenariat américain. C'est quand même la puissance la plus importante. Et l'ONU est née de la volonté d'ailleurs de Roosevelt au départ. Et donc, lorsque la relation entre l'ONU et les États-Unis est mauvaise, le système en souffre. Maintenant, moi, je suis entièrement d'accord avec Alexandra Novosela pour dire que, dans la phase actuelle, on constate quand même une perte de puissance dans l'ensemble américaine, et je pense surtout ce qui va se passer, une perte d'influence. Des États-Unis. Ça veut dire que cette administration est en train, enfin, ce que l'on voit actuellement, n'est-ce pas, pour une grande part, sur beaucoup de sujets, de s'isoler. Alors, dans quelle mesure est-ce que il va, je parle du président Trump, continuer à vouloir appliquer les engagements de campagne qu'il a pris, qui peuvent effectivement avoir des effets très négatifs, on l'a vu dans l'affaire du climat, sur le fonctionnement, ou bien dans quelle mesure est-ce que sur un certain nombre de sujets, parce qu'il est assez imprévisible en réalité, il va, ou sur l'administration, va coopérer. Et moi je n'exclus pas qu'on soit, je n'en sais rien, mais finalement en présence des deux situations. C'est que sur certains sujets, on constate des coopérations. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 6 mois, au Conseil de sécurité, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il a été possible, peut-être grâce à l'ambassadrice américaine qui est sur place, mais il a été possible de trouver, si vous voulez, des solutions, des renouvellements d'opérations de maintien de la paix qui étaient compliquées. Sur la Corée du Nord, il y a finalement eu un accord avec les Chinois sur la dernière résolution. Donc je trouve que tout ça est très imprévisible. Ce que je constate, pour revenir à l'affaire du financement, c'est que il va y avoir, si vous voulez, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une bagarre à ce sujet. Il y a d'une part la volonté de diminuer un certain nombre de contributions, notamment de diminuer la contribution américaine, et donc, parce qu'elle est obligatoire, le poids financier des opérations de maintien de la paix. Alors, dans certains cas, ça va se faire naturellement parce que certaines opérations sont en train de se clôturer. Mais dans d'autres cas, ça va être plus compliqué. Et si les États-Unis veulent revenir sur la question du barème, actuellement, ils payent 28%
du budget des opérations de maintien de la paix.
28% des forces de maintien de la paix, ils vont revenir à 25%, il va y avoir une bagarre, parce que la question est de savoir qui prendrait, n'est-ce pas, les 3%. Jusqu'à présent, ça a toujours été les Européens qui ont payé dans ces cas-là, mais il y a quand même les grandes puissances émergentes. Donc il va y avoir une bagarre autour de cette affaire.
Alors, une bagarre, et je reviens au pays que je mentionnais en vous posant la question de savoir si finalement tout cela n'allait pas provoquer et créer une sorte de boulevard pour la Chine. On voit bien Alexandra Novoselov, Pékin, voire comme un intérêt stratégique pour elle d'accroître son influence financière à l'ONU, mais ça je pense que voilà, une espèce de prise de conscience, en tout cas la nature ayant horreur du vide, pour Pékin c'est un moment qui peut paraître clé ou en tout cas important.
Oui, on s'aperçoit que d'une certaine manière, la Chine devient une puissance ou apparaît comme une puissance stabilisatrice. Hein. La Chine, c'est quand même le deuxième contributeur financier aujourd'hui aux opérations de maintien de la paix. Et ça va continuer d'augmenter. Hein. Il y a cinq ans, c'était le Japon qui était le deuxième contributeur, suivi de l'Allemagne. Tout ça est en train de changer. Donc on voit quand même des émergents. Et la Chine est aussi le premier contributeur en homme des membres permanents du Conseil de sécurité à ces opérations de maintien de la paix. Donc on sent, même de manière mathématique, une perte de puissance graduelle des États-Unis au profit des émergents. Et c'est ça qui se joue depuis pas mal d'années par les contributions des pays émergents aux opérations de maintien de la paix, mais cette contribution devient de plus en plus financière et pas simplement humaine. Et donc là, il y a un poids qui est encore plus important et ce poids se reflète bien entendu dans les débats au Conseil de sécurité. Donc je pense qu'au fond le calcul est pas très bon de la part de l'administration Trump parce que mathématiquement ils sont en perte d'influence, mais ils ajoutent encore par cette espèce d'imprévisibilité totale. Et puis en même temps on a vu qu'au déjeuner il y a eu un déjeuner entre le président Trump et le Conseil de sécurité où il disait ouvertement la part des opérations de maintien de la paix dans le budget, il disait c'est peanuts, c'est-à-dire c'est trois fois rien. Donc il avouait lui-même que en réalité c'était pas ça le problème, c'était pas l'argent le problème, c'est une volonté de taper sur un maillon qui a toujours été faible. Il y a pas que le président Trump qui a tapé sur les Nations Unies, c'est depuis des années et des années, on a une relation qui est extrêmement compliquée et que aujourd'hui, c'est vrai que Nikki Haley, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, essaye de temporiser un peu et elle est en train de découvrir aussi la réalité de la négociation et la réalité des dossiers et qu'on ne peut pas comme ça tout d'un coup remettre en cause 20 ans d'une opération de maintien de la paix ici ou là. Ça elle temporise même si elle est obligée de donner des gages à son président, en réalité.
Jean-Marc de la Sablière.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alexandra Novoselov. Je crois, si vous voulez, que le poids économique de la Chine, sa croissance accélérée de maintenant, depuis tant d'années, a augmenté. Moi, je l'ai constaté quand j'étais au Conseil de sécurité. On a vu progressivement la Chine passer d'une situation passive à une plus grande attention à beaucoup de dossiers, puis finalement avec une volonté d'influencer certains dossiers. Ça, on l'a vu. Et actuellement, je crois que je suis tout à fait d'accord pour dire que l'attitude américaine ou la position de l'administration Trump va encore accélérer, je pense, cette influence croissante de la Chine et c'est vrai qu'elle est perçue en tous les cas comme une puissance stabilisatrice. Alors, il y a une question que moi je me pose, je me suis posé dans les ouvrages récents que j'ai écrits, c'est au fond, quelle est la vision, que veut la Chine en ce qui concerne les Nations Unies.
J'allais vous la poser, cette question.
Elle était prévue. On savait, si vous voulez, pour les Américains, avec, quand vous regardez l'histoire, n'est-ce pas, si vous excluez le début, n'est-ce pas, de la création des Nations Unies, la puissance américaine, les Nations Unies comme une création au départ, surtout américaine. Bon. Moi, j'ai toujours pensé, quand j'étais en tous les cas à New York, je continue de penser que les Américains, au fond, quelles que soient les critiques qui pouvaient être faites, notamment dans le Parti républicain sur l'ONU régulièrement, souhaiter des Nations Unies qui soient ni trop faibles ni trop fortes. ni trop faible parce qu'ils pouvaient en avoir besoin, ni trop forte parce qu'il ne fallait pas que les Nations Unies les gênent. Et au fond, c'était un espèce d'outil, c'est pas pour les Américains. Alors que veut la Chine? Ça veut dire, est-ce que la Chine, au fond, a une vision, a une ambition importante pour les Nations Unies? Est-ce que elle veut l'utiliser en dehors de sa propre zone d'influence directe autour géographique, n'est-ce pas, régional, ailleurs, pour dans une optique stabilisatrice et au fond comme un outil? C'est quelque chose que nous allons voir. Ce qui est certain, c'est que, pour revenir à la question initiale, l'attitude américaine pousse davantage les Chinois à exercer cette influence.
Alors, Alexandre Novoselov, je me tourne vers vous. Il nous reste 3 minutes pour terminer cette première partie des missions. Effectivement, une augmentation de la contribution chinoise à l'ONU pourrait marquer le coup d'envoi de réformes, là aussi, peut-être. En tout cas, c'est important qu'on l'évoque, des réformes qui sont nécessaires. La question est récurrente depuis longtemps. Elle s'impose notamment au niveau du Conseil de sécurité. On sait assez peu de choses de la vision de la Chine ou qu'a la Chine de l'ONU et son Conseil de sécurité.
Oui, c'est vrai que c'est compliqué un peu de décrypter. Je crois que la Chine avance un peu à tâtons, c'est-à-dire que elle est bien entendu extrêmement attachée à son siège de membre permanent, qu'elle veut lier cette position avec également son implication, notamment en matière énergétique, dans un certain nombre de pays, et notamment en Afrique, d'où son implication de plus en plus importante dans les opérations de maintien de la paix. On a vu qu'elle s'était d'abord impliquée dans des opérations de maintien de la paix qui a été déployée dans des États où il y avait
des intérêts chinois
en jeu. Des intérêts énergétiques, notamment chinois. Mais c'est compliqué pour eux parce que, par exemple, ils sont pas du tout à l'aise avec l'usage de la force, la nécessité d'aller trop loin dans les affaires intérieures d'un État. Tout ça, ça remet en cause un certain nombre de dogmes chinois et donc ça les rend mal à l'aise. Et on a vu que dans les incidents qui avaient eu lieu l'année dernière au Soudan, ils ont quand même été un peu bousculés. Donc ils s'impliquent. Mais ils y vont à tâtons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, ils n'ont pas vraiment fait de pression pour obtenir le poste de secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix, parce qu'ils savent que c'est un poste extrêmement exposé et que là, ils n'en sont pas encore là. Donc voilà.
Ce qu'on voit, pour terminer Jean-Marc de la Sablière, cette première partie, c'est finalement une Chine encore un peu hésitante. On l'a souvent évoqué quant aux responsabilités qu'implique celle d'une grande puissance. C'est dans certains dossiers ou sur certains dossiers, oui, sur d'autres, non.
Oui, c'est tout à fait ce que je crois on constate. Qui est intéressant dans la discussion qu'on vient d'avoir, c'est qu'on n'a pas parlé de la Russie.
Pas encore.
Parce que, au fond, la Russie utilise les Nations Unies pour ses propres intérêts, n'est-ce pas ? Essentiellement, pas la seule, mais enfin, de manière quand même extrêmement nette. Alors, elle a et elle utilise son ménagement, ses capacités de blocage quand ça l'intéresse. On voit son influence au Moyen-Orient sur la base d'opérations militaires, augmentée, mais c'est une puissance qui n'est pas un modèle et qui n'a pas une influence mondiale, je veux dire, comme la Chine.
Je vous propose, Jean-Marc de la Sablière, de poursuivre sur le rôle de la Chine à l'ONU. Ça nous permettra de parler de la Syrie géopolitique. Nous retrouvons nos invités, Alexandra Novoselov et Jean-Marc de la Sablière, dans quelques instants. À tout de suite.
Universelle. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'ONU. Nous retrouvons nos invités. Alexandra Novoselov, chercheur invité au Centre pour la coopération internationale de l'Université de New York, également chercheur associé au Centre Thucydide de l'Université de Paris II Panthéon Assas. Alexandra Novoselov qui a dirigé l'ouvrage Le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance dans la collection Biblis des éditions du CNRS. Et Jean-Marc de la Sablière, ancien conseiller diplomatique du président Jacques Chirac entre les années 2000 et 2002, ancien ambassadeur et représentant de la France au Conseil de sécurité entre 2002 et 2007, enseignant à Sciences Po en charge du séminaire sur le Conseil de sécurité. Son dernier ouvrage, Indispensable ONU, paru dans la collection Tribune du Monde des éditions Plomb. Nous avons parlé dans la première partie de l'émission des États-Unis, de la Chine, les États-Unis avec le retrait de l'accord sur le climat, de l'accord de Paris, la Chine qui voit un intérêt stratégique à accroître son influence financière à l'ONU, et vous l'évoquiez, Jean-Marc de la Sablière, on n'a pas eu le temps de parler de la Russie dont vous disiez en fin de première partie de l'émission qu'elle utilisait l'ONU pour ses propres intérêts, mais elle n'est pas la seule à faire cela, Jean-Marc de la Sablière.
Non, elle n'est pas la seule parmi les permanents à faire ça, mais les membres permanents, si vous voulez, ont ce droit de veto sans lequel il n'y aurait pas d'ONU, puisque ça ne serait, c'est eux qui ont, au départ, entre les 80 d'entre eux, qui ont proposé la création de l'ONU, et ils ont mis cette condition pour dire les choses de manière un peu simple et rapide. Mais quand vous regardez l'action des Nations Unies, elle n'est pas déterminée uniquement par les intérêts des membres. Elle est souvent, lorsque les intérêts sont en cause, déterminée par ces intérêts. Mais il y a également des principes, une responsabilité générale et globale de maintien de la paix, qui s'exprime alors davantage par certains pays, notamment par la France, notamment. Mais il y a les deux, si vous voulez. Moi, ce qui me frappe dans l'attitude russe, c'est que ils mettent très en avant, je veux dire, et de manière très audible, par une multiplication de veto, cette défense des intérêts, et également, pour revenir à ce que disait Alexandre Novoselov, par maintenant l'usage également de la force. Ça veut dire que ce qui se passe actuellement en Syrie, en tous les cas, est en grande partie déterminé, ou d'influence nouvelle qu'ont les Russes, elle est, ou retrouvée qu'ont les Russes, elle est déterminée par le fait qu'ils sont présents sur le terrain. Donc voilà, si vous voulez, pour résumer ce que je voulais dire sur la Russie, mais on les voit, si vous voulez, assez peu sur l'Afrique, parce qu'ils n'ont pas tellement d'intérêt là-bas, alors qu'on voit les Chinois de plus en plus présents sur l'Afrique, par exemple.
Alexandra Novoselov, pour revenir à la question du Conseil de sécurité, on parle de la Russie. Ce qui est vrai, c'est que ces derniers temps, on a vu des désaccords vraiment profonds au sein des membres permanents de ce Conseil de sécurité. Les tensions entre la Russie, le reste de l'Europe, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais là, on n'est pas dans les membres permanents. Le Soudan du Sud qui est en proie à une guerre meurtrière. On voit la liste des conflits qui ravagent une partie de la planète s'allonger de jour en jour. La Syrie, c'est le pire échec de l'ONU de ces dernières années.
Sans doute. Enfin, alors moi, je suis mal à l'aise avec cette expression pire échec de l'ONU. Je crois que c'est un échec de la communauté internationale. L'ONU là-dedans, si vous voulez, à partir du moment où le Conseil de sécurité est divisé, l'ONU, ça dépend de qui on parle, le secrétariat, etc., c'est compliqué pour eux. Le Conseil de sécurité est divisé, et c'est vrai que il a été conçu de manière à ce qu'il ne puisse pas intervenir dans des conflits où les intérêts des États membres permanents du Conseil de sécurité seraient directement en jeu, leurs intérêts stratégiques. Et c'est ce qui s'est passé sur la Syrie. Donc c'est un échec de la communauté internationale, certainement du Conseil de sécurité, des États du Conseil de sécurité qui n'ont pas trouvé les moyens, qui n'ont pas pris assez de temps pour trouver des moyens de s'entendre. Qui ont fait jouer leurs intérêts depuis le départ dans cette crise. Donc voilà, et oui, mais c'est définitivement un constat d'échec, ça c'est sûr.
Jean-Marc de la Sablière sur la Syrie.
Oui, moi je partage exactement ce qui vient d'être dit. Je ne pense pas, si vous voulez, que ce soit un échec de l'ONU. Je pense que c'est un échec peut-être de la communauté internationale. comme il y a eu depuis 70 ans le Vietnam et beaucoup, si vous voulez, de situations, le Rwanda,
de
parce qu'il faut bien rappeler les fondamentaux, comme vient de le faire Alexandra, c'est que le système qui a été mis en place en 45, ce système de sécurité collective, il ne dit pas que toutes les crises doivent impérativement être réglées comme un gendarme réglerait un problème. Il dit que le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale et que pour qu'il puisse fonctionner, il faut l'accord des cinq permanents. Donc, si les cinq permanents ne sont pas d'accord, le système ne fonctionne pas ou pas bien, ça dépend du degré d'accord ou de désaccord. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? On constate une situation où à la fois il fonctionne le système mal sur la Syrie, parce qu'il n'y a pas d'accord entre les cinq, en plus entre les puissances régionales, n'est-ce pas ? En revanche, dans d'autres situations qui ne sont pas stratégiques pour les membres permanents, il fonctionne.
Vous pensez ?
Je pense par exemple en Afrique, que dans l'ensemble, alors on peut ensuite discuter de savoir si dans telle ou telle situation il fonctionne plus ou moins bien, mais ce n'est pas dû, si vous voulez, au 5, ça peut être dû à des circonstances locales, ça peut être dû à différentes raisons. Mais on constate aujourd'hui, n'est-ce pas, que... Bon, enfin, moi, je suis convaincu, on y reviendra, je crois, tout à l'heure, que s'il n'y avait pas l'ONU et les 100 000 casques bleus en Afrique, quoi qu'on puisse penser de telle ou telle situation, ce serait un chaos.
On en parlera effectivement demain. Alexandra Novoselov.
Oui, juste, le problème, c'est que cette division du Conseil de sécurité, qui était centrée sur la Syrie, sur l'Ukraine, est en train, par certains côtés, à se jouer aussi sur d'autres dossiers. Par exemple, au Soudan, il y a... Alors, c'est vrai que les Américains ne voulaient pas, depuis le début, instaurer un embargo sur les armes au Sud-Soudan. Ils y sont venus progressivement, mais ils y sont venus quand la Russie s'est opposée au principe même des sanctions, parce qu'elle était elle-même l'objet de sanctions. Et que donc là, sur certains aspects de ces crises africaines, on peut retrouver cette division qui a pour origine non pas la situation du conflit en question, mais des intérêts stratégiques autres et d'autres dossiers en réalité.
Intérêts stratégiques éventuellement supérieurs, Jean-Marc de la Sablière.
Oui, c'est vrai qu'il y a ici ou là quelques métastases, hein, je veux dire. Mais il me semble quand même que jusqu'à présent, on peut faire une distinction entre les dossiers stratégiquement importants pour les grandes puissances et les autres. Et quand c'est stratégiquement important, l'action du Conseil de sécurité varie en fonction du degré d'accord qu'il y a entre les cinq. Il n'y a pas sur la Syrie, vous trouverez plus facilement au niveau des principes, en tous les cas, sur la lutte contre le terrorisme. Dans l'affaire de la prolifération des armes de destruction massive, vous pouvez également avoir des accords, si vous voulez. Donc, je pense qu'il faut nuancer. Alors, ça pose la question, je pense, pour un pays comme la France. Dès lors que nous avons un système, et on ne va pas le changer, qui ne peut fonctionner, et qui a rendu des services, il a pu échouer dans beaucoup de... par moments, l'ONU, mais qui a rendu des services, n'est-ce pas ? Qui ne peut fonctionner que dès lors qu'il y a un accord entre les cinq, est-ce que un pays comme la France, qui défend l'ONU, qui était prise de paix, qui dit, voilà, notre politique, c'est bien sûr la défense de nos intérêts, mais c'est la défense de la paix, n'est-ce pas ? Est-ce que notre action ne doit pas viser à rechercher ou à favoriser un accord entre les cinq. En tous les cas, moi, je l'ai souvent pensé. Je pense que
donc
c'est
une
d'ailleurs...
une diplomatie parallèle, c'est cela qu'il faut
je
entendre.
Pense, si vous voulez, que nous, je pense que notre intérêt sur des dossiers, je veux dire, comme le dossier syrien ou le dossier, c'est d'essayer de voir s'il y a des possibilités d'accord, d'essayer de favoriser des accords. Je pense que lorsque nos intérêts directs ne sont pas en jeu, je trouve que la France a un intérêt, n'est-ce pas, à la recherche, si vous voulez, du fonctionnement du système. En plus, comme elle est membre permanent, elle est de puissance moyenne, elle a des responsabilités mondiales, mais membre permanent, elle a intérêt à ce que le système fonctionne. Le secrétaire général, de la même manière, n'est-ce pas, intérêt à ce que le système fonctionne. Parce que si le système Conseil de sécurité ne fonctionne pas, lui a très peu de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir propre. Il a besoin d'un bon partenariat, il a besoin d'un Conseil de sécurité qui fonctionne.
Oui, Alexandra Novoselov.
Il y a besoin d'une... Je suis entièrement d'accord. Il faudrait être un lien entre les éléments plus extrême, entre guillemets, hein, avec plein de guillemets, du Conseil de sécurité. Ça, j'en suis aussi persuadée.
En tout cas, ce que j'entends, c'est que vous défendez l'un et l'autre, et Jean-Marc de la Sablière, vous le disiez il y a quelques minutes, mentionnant l'idée que finalement, il n'y avait pas de changement possible. Pourtant, il y a des appels au changement. La crédibilité de l'ONU est souvent mise en question. On parle de la nécessité d'une réforme fondamentale. Alors, pour les uns, ça pourrait consister à contourner le veto des 5 membres par des résolutions exécutoires de l'Assemblée générale ou abroger le droit de veto des 5 puissances au sein du Conseil de sécurité. Finalement, est-ce que le droit de veto des 5 permanents n'est pas, d'une certaine manière, une entorse à la démocratie ?
Mais
Alexandra Novoselova.
On n'est pas dans un organe démocratique. C'est pas la charte. Alors, donc, on peut inventer un autre système. D'abord, ça prendra des années et des années, puisqu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour inventer un autre système. Mais le Conseil de sécurité n'est absolument pas un organe démocratique. Et que le droit de veto, c'est la condition même de l'existence des Nations Unies. Parce que, vous imaginez, il n'y a pas de droit de veto. Mais alors, les puissances qui sont pas d'accord, mais elles iraient toutes seules faire la guerre à qui bon leur semble. Il y a quand même ce qu'on a du mal à voir, sans doute de l'extérieur, c'est que il y a quand même une certaine émulation qui se produit au sein de ce conseil. Les gens sont opposés à la tribune ou autour de la table du Conseil de sécurité, mais ils se tapent dans le dos une fois qu'ils ont quitté cette table. Donc il y a une certaine émulation qui se fait, et ce n'est pas négligeable dans d'abord la compréhension mutuelle, et ensuite avec chacun envoyant leurs instructions dans leur capitale et en disant « Bon, bah, à la table, ça s'est passé comme ça, mais dans les couloirs, on peut trouver des accords. » Je pense que il n'y a pas de, enfin, la dissolution ou l'abrogation du droit de veto serait une énorme erreur.
Alors, à défaut, oui, Jean-Marc de la Sablière, et finalement, je me tourne vers vous, à défaut, un club limité à 5 avec l'évolution du monde, est-ce que c'est tenable longtemps encore?
Alors, il ne faut pas partir de l'idée que le Conseil est une espèce d'organe stratifié, ou bien l'organe, si vous voulez, qui puisse pas évoluer. Le Conseil, en dehors de ses structures, a beaucoup, dans sa politique, n'est-ce pas, quand vous regardez son histoire, était inventif. C'est-à-dire, il a créé les forces de maintien de la paix qui figuraient pas dans la charte. Par exemple, le Conseil a reconnu à un moment donné, grâce à la France notamment, que des violations massives des droits de l'homme constituaient une menace à la paix et à la sécurité internationale, et il a accepté d'intervenir dans des situations internes, ce qui n'était pas prévu par la charte. Donc, si vous voulez, vous avez des évolutions.
Il a créé des tribunaux internationaux.
Donc, il a une politique qui peut être inventive lorsque les 5, n'est-ce pas, sont d'accord. Et c'est une instance de dialogue également très importante. Alors, deux mots avant de revenir sur le veto. La société internationale, elle n'est pas démocratique. Je veux dire, nous ne sommes pas dans une commune d'un pays où tout le monde vote. La société internationale n'est pas démocratique. Et le Conseil de sécurité ne pouvait que refléter, n'est-ce pas, sur le domaine qui est essentiel, qui est la paix et la sécurité, il reflète le fait que la société internationale, dans ces domaines, sur la puissance, n'est-ce pas, qui sont celui de la responsabilité, la paix et la sécurité, il reflète la société internationale. Alors, il y a d'autres aspects de l'ONU, n'est-ce pas, qui sont démocratiques. L'Assemblée générale, il y a tout le domaine des droits de l'homme, le domaine, si vous voulez, qui sont des domaines où chacun a sa voix. Alors, je pense, comme Alexandre Adamson, qu'on ne pourrait pas revenir sur le veto. Les grandes puissances comme les États-Unis, par exemple, est-ce que vous pensez que le Congrès américain puisse accepter un jour, n'est-ce pas, que le Conseil de sécurité puisse imposer quelque chose aux États-Unis? La réponse est non, n'est-ce pas? Donc, les grandes puissances qui n'ont pas besoin fondamentalement pour leur propre sécurité, elles ont un intérêt à la paix du monde, mais qui n'ont pas besoin pour leur propre sécurité de l'ONU, n'accepteraient pas qu'on leur impose des décisions. Donc, le système ne peut fonctionner qu'avec le veto, et pour qu'il fonctionne mieux, on a intérêt à avoir des principes, à avoir un accord des permanents sur des principes. Alors, on en revient à la position française. La France dit, et avant elle, ça a été dit par la commission canadienne qui a inventé le concept de responsabilité de protéger, donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais enfin la France l'a repris, c'est une puissance membre permanent qui l'a repris à son compte. C'est pas la France dit, on va pas modifier le droit de veto parce qu'on peut pas toucher à la charte. D'ailleurs, pour toucher à la charte, il faut l'accord des permanents. Hein. C'est dans la charte. Donc on peut pas toucher. Donc on ne va pas toucher, je veux dire, à la charte. Mais au fond, lorsqu'il y a des massacres de masse, génocide, crimes de guerre systématiques, crimes contre l'humanité, eh bien, les membres permanents doivent volontairement dire que ils n'utiliseront pas leur droit de veto. Alors, cette proposition française, elle recueille à peu près un soutien de la moitié de la communauté internationale, une centaine de voix. Elle est refusée par au moins trois des permanents, hein, ça veut dire les États-Unis, la Russie et la Chine. Alors, est-ce qu'il faut continuer? Moi, je crois que oui. Parce que s'il y avait, non pas 100, mais mettons 180, 185 États qui puissent s'entendre sur cette idée, ça crée quand même une pression qui n'est que politique, bien sûr, mais ça crée quand même une pression. Et mon sentiment, c'est qu'on serait beaucoup plus fort dans cette volonté de faire accepter cette idée si nous acceptions de discuter des modalités de l'usage de la force en cas de massacre, n'est-ce pas? Il y a certains pays qui disent il faut que ce soit progressif. Nous, on dit c'est pas le sujet. Dans certaines situations, ça ne peut pas être progressif. Il faut agir tout de suite. Mais je trouve que on n'a pas véritablement engagé une discussion sur ces modalités, comme certains pays il y a quelques années, notamment le Brésil, y avait poussé. Donc, ce sujet actuellement est un sujet qui est sur la table. Une idée qui est sur la table, elle n'est pas tellement poussée. Mais je trouve qu'elle est moralement bien en plus, donc ce serait pas mal, c'est pas mal de la pousser, tout en sachant que les autres permanents, je pense, ne l'accepteront pas.
Alexandra Novoselov. Sur l'usage de la force, c'est vrai qu'il y a il faut un débat, notamment dans les opérations de maintien de la paix. Moi, je plaide pour que on est pas une nouvelle doctrine, mais une doctrine réaffirmée sur les opérations de maintien de la paix.
C'est-à-dire
que une partie des problèmes de ces opérations de maintien de la paix, c'est qu'il n'y a pas de consensus entre ceux qui décident, ceux qui financent et ceux qui contribuent sur la manière de conduire ces opérations de maintien de la paix. Quelles sont les limites au-delà desquels on n'est plus dans le maintien de la paix. Et donc ça concerne notamment la question de l'usage de la force. On peut être robuste, mais quelle est la limite au-delà de laquelle on n'est plus dans le maintien de la paix, on est dans quelque chose qui s'apparente à de la guerre, à de l'imposition de la paix. Et la question de l'usage de la force fait partie de ce débat sur la doctrine du maintien de la paix, et je crois que on devrait pousser à engager ce débat sur la doctrine.
Alors moi, je vous propose, parce que il était prévu que nous nous retrouvions demain, que ce soit justement le sujet qui nous permette de démarrer cette émission prévue autour de la question de l'ONU et de l'Afrique, émission à laquelle il sera donc bien largement question de la question des opérations de maintien de la paix. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Alexandra Novoselov, qui est chercheur invité au Centre pour la coopération internationale de l'Université de New York, également chercheur associé au Centre Thucydide de l'Université de Paris II Panthéon Assas, Alexandra Novoselov, qui a dirigé l'ouvrage Le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance de la collection Biblis des éditions du CNRS, et Jean-Marc de la Sablière, ancien conseiller diplomatique de Jacques Chirac, qui est représentant de la France au Conseil de sécurité entre 2002 et 2007, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier Indispensable ONU, paru dans la collection Tribune du Monde des éditions Plomb. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook Géopolitique Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Victor Hull. Demain, donc, nous retrouverons nos invités autour de la question de l'ONU et l'Afrique. À demain.